France Culture, les matins d'été.
Pas une exposition, pas une installation, pas un projet, non, un atelier. Franck Scurti y tient, c'est son atelier qui a pris place dans la nef du Grand Palais à Paris. Depuis 8 jours, l'artiste travaille dans cet espace exceptionnel à partir d'objets qui ne le sont pas, des affiches d'eau bleue comme on en voit dans le métro, des cages à oiseaux, des bouts de plastique, clés trouvées dans la rue, reliées par des lacets. Bonjour Chris Dercon.
Bonjour.
Président de la RMNN Grand Palais, c'est vous qui avez invité Franck Scurti à prendre possession de ces lieux. Il va y rester tout l'été, il travaillera la semaine et le week-end, l'atelier sera ouvert au public. Vous avez décidé cela, je crois, il y a un mois. Lui nous a présenté ça comme un acte post-confinement, montrer la création, le processus créatif bien vivant. C'est comme ça que vous l'avez envisagé?
Oui, vous avez tout dit. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un appel du ministre de la Culture, le ministère de la Culture, dans le cadre de l'été culturel et apprenant. Et là, on a tout de suite commencé à réfléchir, on a contacté des artistes avec l'aide du directeur de l'École des Beaux-Arts. Et puis, il y avait Franck Scurti. Franck Scurti, ce qui est quand même marrant, j'ai vu pour la première fois une exposition de lui en 91 à Anvers. Je suis belge, je suis flamand, et donc j'étais là dans ces galeries des artistes qui s'appellent Inexistent, non existant. Et puis j'ai continué à suivre le travail de Franck Scurti et il nous paraît un candidat idéal pour occuper la nef, le Grand Palais vide cet été, et pour utiliser la nef comme un grand atelier.
Oui, voilà, parce que vous auriez pu faire un autre choix. Même avec lui, vous auriez pu lui demander d'installer des œuvres. Là, le but, c'est vraiment de montrer, encore une fois, l'artiste qui travaille.
L'idée, c'était très clair. C'est qu'on voulait pas du tout du spectaculaire. On voulait travailler à une échelle réduite, parce que je pense que le moment qu'on vit de Covid, le post-Covid, c'est vraiment aussi parler de nouveau d'une échelle humaine. Et en plus, on voulait montrer aussi la création d'un artiste, parce qu'on parle beaucoup de la culture, animation culturelle, divertissement, économie, mais c'est les décisions artistiques, dont la création artistique qui compte finalement. Et ce qui m'a toujours fasciné, c'est comment un artiste commence une œuvre, quand est-ce qu'il ou elle décide de continuer une œuvre, mais aussi quand un artiste prend la décision que l'œuvre est finie. Oui. Et que l'œuvre est présentable. Eh bien, on invite le public de cette vue, qui a quand même une vue exceptionnelle, privilégiée, de pouvoir discuter avec l'artiste, mais aussi de voir ce processus. Un processus, finalement, qui est un processus de décision. Et c'est pas toujours gai, parce qu'il y a aussi des échecs où l'artiste décide de détruire l'œuvre ou bien de faire disparaître l'œuvre. De toute façon, c'est un privilège pour moi de pouvoir visiter Franck Scurti dans son atelier, dans la nef. Tous les jours, on parle, on fait des rencontres avec d'autres invités et il y a évidemment le public qui peut visiter l'atelier de Franck Scurti et la nef à partir de samedi prochain. Et il y a aussi un live le 17 juillet où on peut discuter, on entend Franck Scurti qui donne des commentaires, parce que Franck Scurti, c'est pas uniquement un flâneur, c'est aussi un commentateur incroyable, c'est un communicateur. Donc je suis très curieux ce que ça va être, le rencontre ou bien la confrontation entre le public et l'artiste. Et c'est pas uniquement le public individuel. Pendant les semaines, avec des associations œuvrant dans le champ social, on va inviter des enfants, des jeunes qui peuvent visiter la nef et qui peuvent parler avec Franck Scurti.
Ça s'appelle Au jour le jour, donc à voir à partir de samedi prochain. Dans le même temps, Chris Dercon, au Grand Palais, toujours, il y a l'exposition Pompéi, une exposition programmée au printemps qui a finalement pu ouvrir le 1er juillet. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a du monde?
Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. On a eu jusqu'à maintenant 25 000 spectateurs. Et je pense que ça a à voir aussi avec le thème Pompéi. Disons 79 après Christ, il y a une ville qui s'arrête. La vie s'arrête. Et là, je pense que tout le monde se rend compte que peut-être c'était ça qui s'est passé le 16, le 17, le 18 mars. Et donc, c'est donc une exposition complètement actuelle. Mais c'est aussi une exposition qui parle d'une archéologie prospective. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'aujourd'hui, quand on voit la ville avec les barrières, les restaurants qui occupent les rues, c'est presque comme des fouilles archéologiques parce que les gens commencent à travailler avec des choses qu'ils trouvent, des plaques de plexi, des chaises, du bric-à-brac, du bricolage, du plastique. Il n'y a plus un seul gaffer tape, des rubans qu'on peut encore acheter. Mmh. Et donc, ça fait penser à cette, pas déclin, mais cette halte abrupte de la vie de Pompéi. Et c'est un peu la même chose
que Franck Scurti. Ça fait penser à Franck Scurti aussi, c'est
oui,
ce que
exactement,
j'allais vous dire.
Parce que Franck Scurti, il a installé une œuvre qui est magnifique, qui s'appelle de La maison au studio, qu'il a commencé en 2012. Et c'est une œuvre d'à peu près 45 mètres de longueur. Et ça consiste des lacets de ses chaussures. Et chaque fois, il a combiné les lacets avec des petits déchets, des petits objets qu'il a trouvés dans la rue. Là aussi, c'est une forme d'archéologie prospective. Et puis, il a installé une œuvre magnifique où j'invite le public de venir voir. Et c'est une œuvre qui s'appelle « Le bleu du ciel qui tombe » ou bien « Le bleu qui tombe du ciel ». Eh bien, tout le monde porte des masques avec un dos bleu, avec un visage bleu. Les affiches publicitaires, ils ont tous un dos bleu. Donc, il y a le bleu qui est par terre.
Je reviens à la fréquentation. Vous disiez Pompéi, l'exposition Pompéi, ça marche très bien. Est-ce que ça vous rend optimiste sur le retour du public dans les musées? Parce que quand même, la question pouvait se pose.
Écoute, je suis très enthousiaste parce que hier soir, j'ai pu parler avec des collègues qui ont visité aussi des expositions un peu partout dans la ville. Et il y a quand même du monde. Et il y a des gens qui en profitent pour aller regarder des œuvres. On n'a jamais l'occasion de les voir parce qu'il y a trop de public, il y a des files d'attente. Et nous sommes tout à fait contents qu'il y a du public pour Pompéi. Et je pense que là, c'est une question de confiance. Et le public à confiance dans les institutions culturelles. Et c'est ça qui est important. On a besoin, oui, c'est nécessaire, mais il faut aussi la confiance. Et ça, c'est important, et c'est pour ça qu'on a décidé de faire quelque chose avec Franck Scurti, parce que c'est un cas exemplaire de la confiance. C'est quand même courageux qu'un artiste se montre en face du public dans une salle immense, un bulle d'air de 450 mètres cubes d'air. C'est quand même courageux. Et donc là aussi, c'est une question de confiance.
Alors, on entend votre enthousiasme, Chris Dercon, et tant mieux. Mais voilà, outre le Grand Palais, la Réunion des musées nationaux, on le rappelle, c'est quand même aussi une vingtaine de musées un peu partout en France. Il y a des expositions qui n'ont pas pu se tenir. Il y a des événements publics ou privés qui ont été annulés. Des librairies boutiques qui sont restées fermées. Le directeur général de la RMN Grand Palais, Emmanuel Markovitch, estimait il y a quelques jours dans les Échos les pertes à 30 millions d'euros. Sur un chiffre d'affaires de 130 millions. Chris Dercon, est-ce que cela remet en cause des projets? Comment allez-vous faire avec ces pertes?
Écoutez, ce qu'on a fait, c'est d'abord reporter les expositions. Parce que la réunion de musées nationaux, le Grand Palais, consiste de 3 chapitres en fait. Il y a les expositions au Grand Palais. On a pu reporter l'exposition Noir et Blanc avec la collection photographie de la Bibliothèque nationale qui va s'ouvrir le 11 novembre. Aussi, on a pu reporter certains événements parce qu'on vit des événements. Oui. Il y a la FIAC, il y a quand même beaucoup des événements qui vont se tenir à partir de mois septembre, octobre, novembre.
Donc ça, c'est du décalage, ce ne sera pas des
pertes. Et puis, la vie commence aussi dans les musées nationaux parce que dans quelques heures, je pars à Pau, dans le musée national de Pau. C'est quand même la ville de François Bayrou qui a écrit ce livre formidable en 95 sur Henri IV, le roi libre. Et demain, je vais ouvrir avec François Bayrou l'exposition Réconciliation Henri IV et Rome. Donc, la vie recommence. Donc, nous essayons tout. Nous sommes obligés vis-à-vis de nos salariés, mais aussi, surtout, nous sommes obligés de recommencer tout vis-à-vis du public. Mmh. Et là aussi, c'est une question de confiance. Et on a tout à fait confiance à Madame Bachelot, parce que elle nous entend, elle a pu entendre les problèmes de l'Opéra de Paris, le Louvre, le Château de Versailles. Mais donc, là, c'est aussi une question de dialogue. Et là, c'est important de réouvrir le dialogue avec le ministère de la Culture, parce que le ministère de la Culture peut pas devenir un mystère de la culture. Comme le président Macron a dit dimanche après-midi, la culture fait partie de notre vie, et pas uniquement de notre vie homo economicus, donc de notre vie économique, mais de notre vie sociale. Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça aussi qu'on a décidé de montrer ce que c'est la création artistique.
Ouais,
okay. Et le public a invité de créer ses propres décisions artistiques, parce que là, on va organiser une compétition, soi-disant, où le public est invité de faire des créations dans la neige. Et fin mois d'août, on va organiser un jury et on va regarder les décisions artistiques du public.
Vous parlez du ministère de la Culture, Chris Zercon. Hier encore, le Premier ministre a répété que la culture faisait partie des secteurs prioritaires à soutenir après cette crise. Qu'attendez-vous du plan de relance qu'on nous promet pour ce qui est de la culture ?
Pour la culture, j'attends que on finalement va prendre la décision de nouveau écouter les artistes et aussi écouter les institutions. Parce que nous sommes incapables d'organiser tout ça nous-mêmes. Et je pense que le soutien de l'État, le soutien du ministère de la Culture et des autres militaires pour notre vie culturelle, c'est une obligation sociale, c'est une obligation économique et surtout une obligation politique. Et donc là, il faut de nouveau pouvoir discuter en dialogue. Et moi, j'aimerais bien, avec mes collègues de la Philharmonie, avec les collègues d'autres musées, mais aussi des écoles, l'école de cinéma, l'école des beaux-arts, mais aussi l'Institut de l'Histoire de l'Art, faire des propositions.
En se réunissant, en étant ensemble, vous dites on n'est pas capable de le faire
ensemble, tout
seul, mais vous êtes capable de vous réunir.
Oui, on s'est réunis depuis quelques mois déjà, et je pense qu'il est temps qu'on fait des propositions et qu'on peut ouvrir un dialogue.
Vous avez travaillé, Chris Zercon, à New York, à Rotterdam, à Munich, à Londres, bien sûr, à la Tate Modern, à Berlin. Vous avez donc connu plusieurs modèles, rapports entre pouvoir public et culture, création. Comment, compte tenu de cette expérience variée, considérez-vous la façon dont ça se passe en France ?
Je peux pas comparer évidemment avec l'Allemagne, parce que l'Allemagne, vous savez, c'est quand même un pays fédéral, donc c'est partagé par région. Et là, il y a quand même une tradition longtemps que ce soutien par région, c'est tout à fait différent de ce qui se passe par exemple en Angleterre. Angleterre, c'est surtout le privé qui compte. Et je pense que ce qui se passe en France, c'est que là, on a une situation formidable parce qu'il y a des musées dans le territoire, il y a des collections dans le territoire, il y a une machine de musées et des institutions culturelles, des théâtres, des salles de concert, l'Opéra de Paris. Et donc, là, ça coûte beaucoup d'argent. Ça coûte beaucoup d'argent et on peut pas uniquement compter sur les économies de ces institutions. C'est une obligation de les soutenir. Et je pense que il faut prendre ça beaucoup plus au sérieux que jusqu'à maintenant. Et là, peut-être, l'exemple de l'Allemagne, c'est un très bon exemple. Absolument.
Et alors, il y a cette question de l'argent public, de l'argent privé, le mécénat. Vous parliez de l'Opéra de Paris. Il y avait une audition hier à l'Assemblée. On parle d'une baisse d'environ un tiers du mécénat cette année pour l'Opéra de Paris. Qu'en est-il chez vous ? Est-ce que vous avez des inquiétudes voilà, sur ce sujet-là en particulier ?
Nous sommes inquiètes, mais quand même, par exemple, pour le projet de Franck Curti, là, on a pu trouver dans quelques jours un soutien très généreux de la Fondation Engie, et on continue à parler avec des mécènes qui s'intéressent de plus en plus pour le champ social. Mais si on peut convaincre la culture fait partie de cette champ social, à ce moment-là, on peut quand même marcher ensemble. Et c'est pas une question de déclarer la guerre à n'importe qui. Non, c'est une façon de travailler et de marcher ensemble. Et là, je suis à l'écoute des mécènes et les mécènes sont à l'écoute de nous. Et là, l'exemple de Franck Curti, c'est un très bon exemple, mais on continue à travailler avec des projets où, évidemment, on a besoin des mécènes. Mais là aussi, c'est une question de dialogue. Et il faut pas forcer, figer les choses. Il faut vraiment être ouvert et se poser des questions. Comment on peut travailler ensemble? Et je pense que ces questions ne sont pas assez posées. Et là aussi, c'est une question d'ouvrir le dialogue.
Alors, parmi les chantiers qu'il y a devant vous, c'est le cas de le dire, le chantier qui va commencer au Grand Palais, qui va donc fermé tournée entre janvier prochain et le printemps 2023. À quoi vont servir ces travaux, Chris Dercon, qui vont coûter en tout, je crois, 466 millions d'euros?
Les travaux sont nécessaires. Parce que depuis 2016, on sait par la préfecture que si on fait rien du tout, si on peut pas mettre la machine, cette belle bête, comme Édouard Philippe disait, du Grand Palais, si on peut pas la mettre aux normes, là, il faut fermer, excusez-moi l'expression, la baraque. Il faut carrément le fermer. On a besoin de ce Grand Palais, parce que le Grand Palais, depuis ses origines, depuis le début, représente cette culture dilatée. Une culture dilatée, ça veut dire que c'est surtout une culture ou bien des offres culturelles pour le grand public. Et ça, c'est depuis l'origine. Et on a besoin de ce Grand Palais de plus en plus, parce que c'est quand même des espaces très vastes, parce que le Grand Palais, dès le début, c'est quand même un exemple, ou bien c'est un bâtiment exemplaire qui représente déjà au début l'architecture post-Covid, avec des espaces massifs, des sorties, des entrées, des grands escaliers, où il y a beaucoup de publics différents qui peut en même temps agir ou bien participer à des activités complètement différentes, simultanées. Et donc on a besoin de ce Grand Palais. Et là, il faut absolument de nouveau revisiter le Grand Palais, parce que depuis le début, le Grand Palais est devenu de plus en plus petit, de plus en plus compartimentalisé, et il suffit de enlever ce qui n'est plat et ce qui n'est plus nécessaire, qui n'est pas intéressant, et pour gagner, par exemple, des mètres carrés, mettre le Grand Palais aux normes et regagner de l'espace. Et là, c'est un bâtiment qu'on aura besoin pour la culture de l'avenir. Absolument.
Et ben alors, donc je précise qu'il y a un grand palais éphémère qui est précisément en train d'être monté là en ce moment sur le champ de Mars. C'est quoi cette culture de l'avenir, Chris Dercon? Parce que c'est ça aussi votre travail, évidemment, c'est de penser à des programmations futures. Vous avez dit tout à l'heure culture dilatée, c'est un mot que vous employez beaucoup. Qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que vous pouvez vraiment nous expliquer?
Vous savez, le public, le grand public ne fait plus de différence entre des salons d'art, la FIAC ou bien même Taste of Paris, et des grandes expositions comme El Greco, Toulouse-Lautrec, et même des événements comme l'atelier de Franck Scurti. Il faut pas sous-estimer le public. C'est le public qui peut faire des choix. Et là, le Grand Palais est capable de présenter un menu qui est assez complet. C'est un panorama des activités culturelles où on peut aussi participer, acheter quelque chose, d'aller visiter un salon. C'est quand même une décision importante. Mais aussi de visiter des expositions, petits et grands, ce sont aussi des décisions importantes. Et le Grand Palais peut offrir tout ça. Voilà, c'est ça la culture dilatée. C'est une culture pour le public et par le public. Et surtout, il faut pas sous-estimer le choix du public. Et là, je parle pas de divertissement ou économie. Ouais. Je parle vraiment un intérêt du public pour la création.
Vous parlez des grandes expositions, c'est une question qui est en débat depuis quelques mois, quelques années, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des projets de grandes expositions au Grand Palais, ou est-ce que vous estimez que c'est terminé, ça?
D'abord, on a de l'espace pour les grandes expositions. Parce que sans doute, on va vivre une époque dans les années qui viennent, qui s'appelle post-Covid, où il faut avoir de l'espace pour faire des grandes expositions. Et là aussi, il faut bien réfléchir, ça peut être quoi les grandes expositions? Une grande exposition peut être aussi une petite exposition, oui. Parce que vous savez, Pompéi, c'est pas une exposition de 3000 mètres carrés, n'est-ce pas? C'est une exposition dense, c'est une exposition qui est précise, c'est une exposition qui parle aussi de l'avenir des expositions, où il y a une combinaison des objets originaux avec des explications didactiques, avec des images, documentaires, où le documentaire devient la fiction devient documentaire. Donc ça, c'est déjà des nouveaux types d'expositions. Évidemment, on va penser à des grandes expositions, mais le grand veut pas toujours tout de suite dire spectaculaire. Le projet de Franck Scurti, c'est une grande exposition ou bien c'est un grand projet, même si c'est à l'échelle réduite. Et évidemment, on réfléchit sur les expositions de l'avenir, pas uniquement au Grand Palais, mais aussi au Musée de Luxembourg, parce qu'on travaille au Musée de Luxembourg à Paris avec l'exposition Man Ray à la mode, qui commence le 23 septembre. On travaille avec la Villette sur l'exposition en avril de Napoléon, avec beaucoup d'autres institutions. Et là aussi, ce sont des exemples des nouveaux types d'expositions.
Merci beaucoup, Chris Dercon. Tout ça à voir donc dans tous ces musées que vous avez cités en ce qui concerne le Grand Palais. En effet, l'atelier de Franck Scurti à partir de ce week-end, ça s'appelle Au jour le jour, et l'exposition Pompéi prévue jusqu'au 27 septembre. Merci beaucoup, Chris Dercon, d'être venu sur France Culture ce matin.
Merci.